Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
Entre Tigre et Euphrate, la Mésopotamie.
Chuma a wingum, ina mar a wingim, urtapid, inchu urrapadu. Si un homme, un notable, détruit l'œil d'un autre notable, lui crève un œil, on détruira son œil, on lui crèvera un œil. Chuma a wingum, shini a wingim, merichu. Itadi shinashu inadu. Si un homme, si un notable, casse la dent d'un autre notable de même rang que lui, on lui cassera une dent.
Le roi Hammurabi, dont le fameux code est exposé au Louvre, a été l'initiateur d'un premier empire de Babylone qui ne dura qu'un instant, au XVIIIe siècle, avant notre ère. Que l'homme qui a un procès lise Mastel écrite et qu'il voit son verdict. L'invention de l'écriture et l'établissement de monarchie qui rendait la justice en même temps qu'elle faisait la paix et la guerre nous font dire que la Mésopotamie se tient à l'aube de notre histoire. Mais la proximité prétendue peut aussi bien être une illusion. C'est plus tard et ailleurs que viendra le miracle grec et la distinction fondatrice entre les domaines politiques, économiques, artistiques, scientifiques, qui sont extraits de l'atmosphère magique où ils se recoupaient jusque-là. Il faut se méfier aussi de l'abondance de la documentation. À la différence de la Grèce, dont nous avons gardé beaucoup de monuments, la Mésopotamie nous a livré surtout des tablettes. Une mer de tablettes qui pourraient nous ensevelir. Quand on considère la Mésopotamie, ce n'est pas facile d'adapter sa vue. Il ne faut pas regarder l'objet comme trop proche, et il ne faut pas non plus que l'abondance de documentation aveugle.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Dominique Charpin. Bonjour Dominique Charpin.
Bonjour.
Demain, c'est un grand jour pour vous. Leçon inaugurale au Collège de France de la nouvelle chaire de civilisation mésopotamienne qui s'appelait autrefois l'Assyriologie, qui est de glorieuse mémoire. Il y a une très belle bibliothèque au Collège de France.
Notamment. C'est une de nos chances, en effet, que ces bibliothèques spécialisées.
Et puis le grand maître Paul Garelli et Jean-Marie Durand vous ont précédé. Quand on est spécialiste de cette région, comme d'autres époques de l'Antiquité, il faut à la fois avoir la connaissance des inscriptions, l'épigraphie, et puis une pratique de l'archéologie, ou une connaissance, ou un travail en association avec l'archéologie. C'est parce que vous avez été malade en 74 à Larsa, c'est au sud de la Mésopotamie, que vous avez renoncé à l'archéologie.
Oh, c'est pas pour ça que j'ai renoncé, non, mais je dirais qu'il fallait choisir, puisque arrivé à un moment du cursus, on est obligé de se spécialiser. Et peut-être en raison d'une certaine impatience, j'ai préféré les textes. On a des résultats quand même plus rapidement.
C'était en 74, ça vous a dispensé du service militaire, la maladie?
Effectivement, parce que c'était une maladie qui pouvait revenir. Donc au moment où l'armée aurait dû s'intéresser à moi, ils ont préféré me laisser partir.
Alors vous avez quand même pas mal pratiqué la région. Vous n'avez pas pu retourner depuis l'an de disgrâce 2010. Alors nous sommes entre Tigre et Euphrate, il n'y a pas de relief. Vous pouvez nous expliquer le paysage ?
Oui, c'est une vaste plaine alluviale, donc avec une déclivité vers en direction du golfe arabo-persique qui est assez faible. Et donc la caractéristique, c'est d'avoir essentiellement de l'argile. Et c'est un élément marquant du paysage. Donc vous avez des cours d'eau avec des zones de marécage, des zones qui sont irriguées. Et puis, cette argile, je dirais, c'est à la fois la malédiction des archéologues et la bénédiction des épigraphistes, puisque les bâtiments étaient en argile et donc se sont effondrés. Et on n'a pas de bâtiments magnifiques en pierre comme on peut en avoir en Égypte ou en Grèce, par exemple.
Mais des tablettes et les tablettes. Et les tablettes
voilà, parce que ça se conserve.
Et après, les zones qui sont cultivées et soumises à l'irrigation artificielle, vous avez des zones de steppe. Puis le désert hostile. Les nomades, voilà. D'ailleurs, vous intéressent beaucoup et pas
alors
seulement
voilà,
les sédentaires.
Il y a une dichotomie dans la population. Vous avez les populations sédentaires qui vivent avant tout de l'agriculture. Et puis, vous avez, aux marges, je dirais, les nomades qui, à cette époque-là, si on prend le XVIIIe siècle, l'époque d'Hammurabi que vous avez évoquée en commençant, sont des éleveurs de petits bétails. Tout ce qui est dromadaire, c'est plus récent. Et donc là, on a essentiellement des troupeaux de ovidés, capridés. Et ça joue un rôle très important dans l'économie et il y a une complémentarité entre les deux groupes.
Alors on dit, l'organisation État islamique, une de ses faiblesses, c'est l'enclavement. En même temps, cette zone du Tigre et de l'Euphrate, vous la considérez toujours dans un ensemble culturel avec des circulations, des migrations. On y reviendra. À la meilleure époque de l'archéologie, peut-être, il y avait même des trains, comme ce prolongement de l'Orient Express qu'a emprunté Agatha Christie, qui, aux côtés de son époux, a fouillé un peu dans les mêmes régions que vous, monsieur Charpin.
Il arrive un moment où chacun doit prendre sa vie en main, seul. Rosaline étant en pensionnat, je pouvais voyager.
Où allez-vous, ma chère, en Europe ?
Je vais plus loin. Je vais à Bagdad.
Mais c'est là que j'habite ? Quelle coïncidence ! Chez qui logez-vous ? Je les connais sans doute.
Je ne loge chez personne. Je vais à l'hôtel.
Ce n'est pas très recommandé, croyez-moi. Je vais vous dire ce que vous allez faire. Vous allez venir chez nous.
J'ai voyagé en Irak et j'ai visité le célèbre site d'Our. Sur l'invitation du couple d'archéologues, Léonard et Catherine Woolley. Le charme de ces vieilles pierres me fascina. Il se produisit quelque chose là-bas. Le début d'une nouvelle vie.
Enfin, je ne vais pas entrer dans votre vie privée, Dominique Charpin, mais Agatha Christie travaillait aux côtés de son époux et vous-même, vous avez une épouse assyriologue ?
Absolument, oui, oui. Travaille également sur ses archives de mari, dont on reparlera tout à l'heure.
Mais là, on est à Our. Alors, on a décidé de parler d'une période qu'on appelle le paléo-babylonien, marquée notamment par le règne d'un instant, d'un empereur, à Babylone, qui s'appelait Hammurabi. Ça nous met vers quel siècle ?
Alors, on considère que Hammurabi, c'est de 1792 jusqu'à 1750 avant Jésus-Christ, selon une chronologie qui est sûrement encore à réviser.
Et Our est tombé autour de l'an 2000, avant Jésus-Christ, aux mains des Amorites. Alors, les Amorites, ce sont des migrants ?
Alors, il y a des débats pour savoir exactement quelle est la part à attribuer à chacun. Mais disons qu'on a en effet, apparemment, des groupes qui seraient venus, pas forcément directement, mais disons de la Syrie, et qui auraient profité de l'effondrement de cet empire pour s'installer et fonder des dynasties. Et donc, au moment où l'Empire d'Our, qui était relativement centralisé, tombe, on a ensuite une multitude de petits royaumes. Et puis, parmi ces petits royaumes, il y a Babylone. Et donc, en à peu près deux siècles, Babylone va réussir à réunifier. C'est une caractéristique de l'histoire de la Mésopotamie, la succession de périodes de fragmentation politique et de réunification.
Alors, le royaume sumérien d'Ur a été démantibulé par les Amorites. On avait pourtant mis un mur entre le Tigre et l'Euphrate pour se protéger.
Oui, l'histoire montre que tout type de mur destiné à empêcher les gens d'entrer finit tôt ou tard par tomber et on pourrait avoir des prolongements beaucoup plus récents et même d'actualité.
Alors ces Amorites multiplient les ruses pour tromper les spécialistes parce qu'ils transportent les noms de leur village et de leur ville.
Oui,
alors
ça c'est
très compliqué pour vous.
Alors, ça ne facilite pas toujours notre travail, effectivement, parce qu'on a mis un certain temps pour repérer qu'on avait affaire à des homonymes entre des régions assez éloignées. Mais c'est quelque chose qui est assez courant dans l'histoire des migrations. Hein. New York, il y a York dedans. Hein. Pour prendre Nouvelle-Orléans, enfin, on pourrait multiplier comme ça les exemples. Simplement, dans leur cas, ils ne rajoutaient pas nouveau devant. Et c'est ça qui nous a rendu le travail plus compliqué.
Et ils parlent une langue l'amorite dont il n'y a pas beaucoup de traces, parce qu'ils vont récupérer le sumérien.
Le sumérien et l'acadien, voilà. L'écriture cunéiforme avait servi jusqu'alors à noter deux langues très différentes. Le sumérien, dont on ne connaît pas bien les tenants et les aboutissants, qui est une langue isolée dans l'histoire des langues du monde. Et puis l'acadien ou babylonien, qui appartient à la famille des langues sémitiques, alors là, qui est tout à fait bien située. Et donc, quand les Amorites, petit à petit, ont pris le pouvoir en Mésopotamie, cette tradition culturelle était déjà tellement forte qu'ils n'ont pas éprouvé le besoin de noter leur propre langue, qui n'est connue pratiquement qu'à travers des noms propres et puis quelques mots qu'on peut trouver ici et là, des mots techniques, notamment qui ont trait à l'élevage. Mais c'est tout, parce que, je dirais, ça fait partie aussi, dans l'histoire générale des migrations, hein, la fascination pour la culture du pays dans lequel on s'installe. Et du coup, malheureusement pour nous, on aimerait bien avoir des textes en amharique. Pour l'instant, on n'en a pas.
Alors, cette période de 200-300 ans, c'est parfois une période d'unification. On reparlera d'Amourabi, mais le plus souvent, disiez-vous, une période où les royaumes amorites, eh ben, voisinent, cohabitent, se font la guerre, décident de la paix. Et parmi ces royaumes, il en est un qui est fort important au regard des archéologues, même si on ne comprend sa suprématie que depuis peu, grâce notamment aux équipes françaises. Celle d'André Parot a commencé à travailler en 1934. André Parot, qu'on entend ici, est allé sur le site de Marie jusqu'en 1974. Marie, c'est à la frontière de la Syrie et de l'Irak, si elle existe encore, en plein territoire de l'organisation État islamique aujourd'hui.
Marie, que j'ai eu la chance de découvrir en 1934, est une grande capitale qui se trouve aujourd'hui en territoire syrien et qui, dans l'Antiquité, était une des plus grandes cités, une des plus grandes villes de la région mésopotamienne. Elle n'avait ni la célébrité, ni le retentissement, le rayonnement de ces grandes villes comme Babylone, comme Ninive, comme Ouran-Khaldé, partie d'Abraham. Mais elle était pourtant signalée. Nous savions simplement que c'était la 10e ville après le déluge, et d'autre part que cette ville avait été détruite par le roi de Babylone, Hammurabi, disons vers 2000 avant Jésus-Christ. Et jamais avant les premiers coups de pioche, on aurait pu soupçonner que cette ville, qui était entièrement perdue, entièrement recouverte de sable, avait pu être, il y a 4000 ans, un des plus grands foyers, non seulement historiques, scientifiques, mais artistiques, de toute l'Antiquité. J'ai dit tout à l'heure de l'Antiquité mésopotamienne, mais disons de l'Antiquité orientale tout entière. J'ai eu aussi cette chance, dans cette ville vraiment spectaculaire, de découvrir toute la bibliothèque, toutes les archives diplomatiques du royaume, archives qui se montent à quelque 25 000 textes. C'est la plus grande bibliothèque, une des plus grandes bibliothèques en tout cas, de toute l'Antiquité qui vient de surgir du sol.
On peut dater cette archive, 1955, radiodiffusion française, la datation de la chute de Marie qui passe entre les mains d'Amourabi, le prince de Babylone. Elle est flottante à l'époque de cette archive, c'est 2000, vous parliez de 1761, il y a quelques instants. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus, moi... Je reviens sur l'idée de la bibliothèque. Alors, Parot s'intéresse beaucoup aux objets artistiques, c'est un conservateur de musée. Mais ce n'est pas une bibliothèque qu'il a trouvée. Au fond, il a été pour vous un pourvoyeur de tablettes.
Oui, c'était comme ça que Jean Bottero s'amusait à l'appeler...
pas très académique, on va dire.
Oui, c'était affectueux quand même aussi, je pense. En réalité, il s'agit, vous avez vu dans le passage, Parot lui-même hésite entre la caractérisation bibliothèque ou archive. Ce sont des archives. C'est-à-dire que, je dirais peut-être un peu malheureusement, on n'a pas d'ouvrages littéraires, on en a très très peu. Ce qu'on a retrouvé, ce sont les documents qui résultent directement de l'exercice du pouvoir royal et de l'administration du palais. Et un des trésors, en effet, il a fait allusion dans cet extrait, ce sont les archives diplomatiques. On a des milliers de lettres qui ont été adressées aux deux derniers rois de Marie pendant une période qui est assez limitée, 25 ans. Mais l'avantage, c'est que on a une couverture chronologique extrêmement dense. On a une tablette tous les trois jours, si on fait une moyenne, ce qui, dans l'Antiquité, est absolument inégalé. Et donc, on peut savoir presque tout. C'est pour ça que quand on est, il y a des colloques sur la musique, il y a des colloques sur l'irrigation, il y a des colloques sur la divination. À chaque fois, on peut répondre présent parce qu'on a des informations.
Puisque vous savez tout, vous savez qui écrivait ? Le roi de Marie, il savait écrire ? Ou il déléguait un scribe ?
Alors, celui qu'on connaît très très bien, c'est son secrétaire personnel, qui s'appelait Chounouraralou. Et on voit bien que quand les gens écrivaient au roi, ils doublaient la lettre au roi par une autre lettre au secrétaire, ou ils résumaient, ou bien ils recopiaient telle quelle la lettre destinée au souverain. Et puis à la fin, il y avait un petit mot personnel, souligne bien l'intérêt de ma requête auprès du roi. Et puis éventuellement, on proposait au secrétaire de lui envoyer un petit cadeau.
Mais votre tendance serait de dire qu'il y avait davantage de gens qui savaient lire et écrire. Vous avez écrit un livre au PUF sur ce sujet, qu'on ne le pense. Parce qu'au fond, expliquez-vous, le cunéiforme, c'est pas si difficile à maîtriser.
Oui, j'ai insisté sur le fait que pour certaines époques et dans un registre particulier, effectivement, l'écriture cunéiforme n'est pas si difficile. Mais On suppose maintenant que les élites étaient capables, sinon d'écrire, au moins de lire. On voit des généraux, par exemple, manifestement, qui, pour des raisons de secret, quand ils sont en guerre et qu'ils correspondent avec le roi, le font eux-mêmes, prennent le calame eux-mêmes.
Alors, vous inaugurez votre chaire demain, le son inaugural, c'est à quelle heure ?
18h.
Au Collège de France, à Paris, votre chaire va balayer les siècles. Là, on va en franchir, si vous le voulez bien, parce que notre coutume est de mettre de la musique. C'est notre manière d'inscrire les choses. Au milieu de l'émission, on va franchir 12 siècles. On n'est plus au temps d'Amourabi, mais au temps de Nabucodonosor, le deuxième, celui qui a vaincu à Jérusalem, déporté une partie des Juifs.
There was three children from the land of Israel, Shadrach, Meshach, Abednego. Took a trip to the land of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar was the king of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. He took a lot of gold at midnight of Shadrach, Meshach, Abednego. And he told everybody with the music of the trombone. And he told everybody with the music of the clarinet. And he told everybody with the music of the horn. You must fall down and worship the idol Shadrach, Meshach, Abednego. But the children of Israel would not bow down. Shadrach, Meshach, Abednego. Couldn't fool them with the golden idol, Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, I said you couldn't fool them with the golden idol, Shadrach, Meshach, Abednego.
Oh, Shadrach, Meshach, Abednego.
Oh, oh, Abednego.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Dominique Charpin, professeur de civilisation mésopotamienne au Collège de France. Au fond, on aurait dû faire appel à votre épouse, parce que je crois qu'elle a écrit un livre sur la musique.
Et surtout sur les musiciens. Ouais. Voilà, je peux pas vous dire si la musique qu'on vient d'entendre aurait plu à des Babyloniens.
À qui ne plairait-elle pas ? Enfin bon.
Mais autant on a des problèmes pour essayer de reconstituer cette musique. Il y a quelques textes musicologiques, mais qui sont d'interprétation très délicate. Par contre, mon épouse a publié la correspondance échangée entre les chefs de musique, notamment, et d'autres musiciens, et les rois de Marie. Et là, c'est tout l'aspect, je dirais, place des musiciens dans la société palatiale et au-delà, qui, grâce à tous ces écrits de la vie quotidienne, peut être décrite et connue avec des luxes de détails qu'on trouve rarement ailleurs.
Alors, puisque vous parlez de la société des palais, voici extrait de « Il était une fois la Mésopotamie » de Madame Lubchansky. L'ordre donné par un autre prince... On a parlé de Marie, on a parlé d'Our, en voici un autre, de construire depuis son palais, à côté de son palais, un temple.
Moi, roi d'Assour et roi du monde, à l'ordre de mon Dieu et pour l'édification de mon propre palais, j'ai fait briser et extraire, à pics et à pioches, l'albâtre de la montagne. Par les habitants des contrées ennemies faits prisonniers par moi, en vue de préparer les grands taureaux, qui protégeront mon palais.
Le prince Goudéa fit un rêve.
J'ai rêvé d'un homme dont le corps était imprégné du ciel, et ce corps appartenait à la terre. Par la tiare de sa tête, il était Dieu. À ses pieds était la foudre. À droite et à gauche, un monstre m'a ordonné de bâtir un temple. Le Seigneur, profond comme le haut des cieux, te révélera le plan du temple.
Alors, le temple et le clergé, ça vous connaît aussi, Dominique Charpin. Ben, j'ai fait une thèse sur le clergé d'Our.
Voilà, j'ai eu la chance que, au moment où j'avais terminé ma première thèse, ma thèse de troisième cycle, les publications des archives, des fouilles d'Our a pris fin et du coup, on a pu connaître l'emplacement de toutes les tablettes qui avaient déjà été publiées. Et le point de départ de mon travail, ça a été de remettre les différentes tablettes dans leur contexte. Et à ce moment-là, on s'apercevait que les textes qui avaient été publiés de manière thématique, textes littéraires, textes religieux, contrats, lettres, etc. Eh bien, en les remettant dans leur situation archéologique, on arrivait à faire des ensembles qui avaient des sens. Et notamment, j'ai pu voir que près du temple, il y avait tout un quartier qui était occupé par des membres du clergé, en particulier des purificateurs. Et du coup, de connaître à la fois l'histoire de ces familles et leurs traditions religieuses a permis de comprendre beaucoup mieux la façon dont tout ça s'articulait.
Les temples sont dédiés à des dieux qui ont une compétence et les temples vont donc avoir une spécialité.
Absolument. Il y a des cas qui sont tout à fait remarquables. Le plus beau, sans doute, c'est le temple de la déesse Gula, qui est la déesse de la santé. Et elle a comme animal attribut le chien. Ça, on peut le constater dans l'iconographie. Elle est souvent représentée avec un chien à côté d'elle ou même on a un chien uniquement pour évoquer la déesse. Et des fouilles allemandes, il y a quelques dizaines d'années maintenant, ont découvert un cimetière de chiens dans la ville d'Issine, qui était la ville de la déesse Gula. Et il y a des inscriptions qui permettent de comprendre que, en fait, on avait un véritable chenil et ces chiens, eh bien, ils étaient chargés de lécher les plaies des malades parce qu'il y a dans la salive du chien, plus encore que dans la nôtre, des enzymes pouvoir cicatrisants. Et donc, à une époque où on n'avait pas beaucoup d'autres moyens, on faisait traiter ainsi un certain nombre de plaies. Et les malades guéris offraient des chiens votifs à la déesse. Et on en a retrouvé certains.
Et les chiens étaient enterrés dans un cimetière particulier. Alors, quand c'est le dieu de l'enfer, bon, on va y procéder à des enterrements. Quand c'est le dieu de la justice, ça va être un tribunal. Quand c'est la déesse de l'amour, alors quelles sont les activités qui se livrent dans le temple de la déesse de l'amour?
Alors dans le temple, c'est difficile à dire, mais il est certain que tout le dossier de ce qu'on a pu appeler la prostitution sacrée s'explique beaucoup mieux si on considère que la relation des Babyloniens à la sexualité était différente de la nôtre et que effectivement ce type d'activité était sous le patronage de la déesse Ishtar, qui était la déesse de l'amour.
Alors vous étudiez les tablettes, vous étudiez les demeures, vous avez trouvé un palais de vin, et vous regardez aussi ce qui se passe au-delà des rois, au-delà du clergé, chez comment dire les particuliers, les marchands vous intéressent, les demeures des particuliers.
Alors là, c'est un autre souvenir de terrain. Dans les années 80, à Larsa, avec Jean-Louis Huot, on a dégagé...
Alors Larsa, c'est au sud...
C'est un peu au nord de Bassora, hein, tout à fait dans le sud de l'Irak actuel. Et un site qui est perdu au milieu du désert, donc pas forcément facile à fouiller, mais on a dégagé tout un quartier qui était plein de grandes demeures, on pourrait dire des hôtels particuliers qui ne se jouxtaient pas et qui donnaient une image de l'urbanisme babylonien très différente de ce qu'on avait jusqu'alors. Jusqu'alors, une ville comme Our, par exemple, était faite de petites maisons avec des petites ruelles. Et là, d'un seul coup, on avait des grandes bâtisses qui faisaient jusqu'à 1000 mètres carrés et qui étaient séparés par des zones qui étaient manifestement des jardins. Et les archives permettent de savoir que c'était là que vivaient les grandes familles de marchands qui s'étaient enrichis et qui se faisaient construire donc des demeures dignes de leur état.
Alors on fait toujours l'écart, mais il faut maintenir le contact entre l'archéologie, on parlait d'archéologie, et l'épigraphie, qui est votre spécialité. Vous dites qu'il y a une typologie possible des documents. Il y en a des centaines de milliers au total. Oui.
Tout à fait. Oui.
Alors il y a les documents d'archives. Il y a les textes commémoratifs. Là, on ne s'adresse pas aux hommes, on s'adresse aux dieux.
Et à la postérité.
Ouais. Et puis, il y a les textes de formation. Alors, les textes de formation, on va y trouver, restituer les grands textes fondateurs qu'on doit transmettre de génération en génération, c'est ça?
En partie.
Alors, on prend un exemple, parce qu'il est le plus connu de nous autres ignorants, c'est celui de Gilgamesh.
Voici Gilgamesh, seigneur d'Uruk.
Un tyran.
Place. Peut-être. Mais il y en a eu des pires.
Il est devenu hautain et arrogant.
Je maintiens que le monde a connu de pires tyrans. Il a su combattre. Aujourd'hui, les ennemis d'Uruk n'osent plus nous attaquer.
Et il a construit les grandes murailles. Il est certain que c'est là un abri sûr contre nos ennemis. Mais de belles murailles ne font pas une cité heureuse. Et pourquoi donc, avec d'aussi puissants remparts, a-t-il besoin d'une si grande armée, hein?
Ça, c'est vrai. Il a mobilisé tous les jeunes fiers à bras d'Uruk. Tout ce qu'ils savent faire, c'est manger et boire et gaspiller les réserves de nos greniers.
Cependant, être soldat n'est pas mauvais pour les fils du pauvre peuple.
Le pauvre peuple?
Oui.
Il vaudra mieux qu'il travaille la terre, qu'il soit artisan ou marchand. C'est ce qui apporte la richesse à notre cité. Gilgamesh, en la privant de ses travailleurs, nous appauvrira tous.
Mais nous devons nous débarrasser du tyran.
Oui.
Mort au tyran.
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 Riez, riez, Dominique Charpin. C'est une adaptation de la radiodiffusion française. C'est de l'archéologie aussi. Et c'est plein de qualités. Donc Gilgamesh, qui élève des murailles et tyrannise les populations, va se voir envoyer Enkidu par les dieux. Mais ça ne va pas se passer si mal entre tous les deux. Et quand Enkidu mourra, enfin je résume à ma façon, hein, Gilgamesh va chercher l'immortalité. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si à l'époque qui est la nôtre, à cette âge classique, l'époque d'Amourabi, l'épopée est déjà constituée. Là, ce n'est pas des bouts et des morceaux. Vous dites, je travaille sur des notes en vrac, mais pas sur des livres. Il y a quand même des livres constitués.
C'est vrai, on a déjà des textes et on sait maintenant que l'épopée de Gilgamesh formait déjà une épopée unifiée à cette période. Malheureusement, on n'en possède que des fragments. Ce qu'on connaît de façon beaucoup plus complète, c'est l'exemplaire retrouvé dans la bibliothèque d'Assurbanipal au 7e siècle avant notre ère. On a donc des textes littéraires magnifiques. On a aussi, pour l'époque légèrement postérieure à Hammurabi, le récit du déluge dans ce qu'on appelle l'histoire d'Atraasis, le super sage. Mais ces textes ne représentent qu'une toute petite partie de ce qui nous est parvenu. Et le reste, ce sont des documents bruts. Aussi bien provenant des activités ordinaires, les lettres que les marchands échangeaient entre eux, leurs documents comptables, les contrats qui permettaient aux gens ensuite de faire valoir leurs droits sur leur maison, leur champ, etc. Et puis on a aussi les traces laissées par les apprentis scribes.
Dites-moi, quelles traces encore peut-on retrouver? Il n'y a plus de possibilité de lancer des campagnes de fouilles. Il y avait eu des essais au Kurdistan irakien, maintenant cerné par la guerre. Et les documents, les tablettes qui sont encore conservées là-bas, qu'advient-il d'elles? Alors le sort des hommes est plus important, mais les tablettes de Marie par exemple?
C'est une de nos grosses inquiétudes, puisque les tablettes de Marie sont conservées intégralement au musée de Deresor, donc dans une région qui à l'heure actuelle est au centre de l'attention de tout le monde. Et on ne sait pas exactement quel est l'état de ce musée. Donc c'est vrai que les gens qu'on connaît à Deresor, on sait qu'il y en a un certain nombre qui ont fui. Enfin, la situation du peuple syrien est une situation dramatique. Et donc, nos soucis pour les tablettes cunéiformes peuvent paraître un peu dérisoires. En même temps, ce sont parmi les plus vieilles archives de l'humanité. Donc, il y a aussi ce souci du patrimoine qui joue et qu'il ne faut pas oublier non plus.
Les tablettes qu'a découvertes André Parot, elles étaient restées là en stock parce que Hammurabi n'avait pas eu le temps de les déménager jusqu'à Babylone. Merci à vous, Dominique Charpin. Votre cours 18h demain au Collège de France. Mais il y a possibilité, comme pour les émissions de France Inter, comme pour la marche de l'histoire, de les podcaster, bien évidemment. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, Frédéric Martin, Franck Olivard, Ilinka Negulesco, Zachary Boubli à la préparation, Fabrice Desmaz à la technique. Demain, votre confrère et collègue Roland Recht. Mais tout de suite chez Mathieu Vidard.
Bonjour Jean Lebrun, on va parler d'une science en plein développement, c'est l'épigénétique, c'est l'influence de l'environnement sur l'expression de nos gènes. C'est passionnant.